chéri, nazo lela yo, putu ya lelo, nazo sela yo. Pesanga boku, pesa, pesa, manga na bileni, pesanga boku, pesa, pesanga disi na linga, pesanga boku, pesa, pesa, manga na bileni, pesanga boku, pesa, pesanga disi na linga.
Exercise for mixage. Il est 12h.
Vendredi 7 juillet 2023, bonjour à tous et bienvenue dans le 12h de Radio de la Paix. Voici nos titres. Le financement des partis, groupements politiques et des candidats à l'élection présidentielle sur fonds publics a fait l'objet d'une session du mécanisme conjoint CNDH, parti et groupement politique hier jeudi. Jean-Claude Mabéa nous en parle à l'entame de ce 12h. Lutte contre l'insécurité routière, le ministère des Transports appelle les conducteurs de véhicules à la précaution face à la pluie et à respecter le code de la route. C'était dans le cadre de la semaine nationale de sécurité routière, hier jeudi à Abidjan. Au Sénégal, l'opposant Biram Souley Diop, président du groupe parlementaire de la coalition de l'opposition, Yoweri Askanoui, est en garde à vue depuis hier jeudi, après avoir mis en garde contre un possible revirement du chef de l'État Macky Sall, qui a annoncé qui ne se présentait pas à l'élection présidentielle de février 2024 au Sénégal. Et puis, en fin d'édition, l'invité de la rédaction ce vendredi sera Kone Fayraman Rodrigue, chef du projet Sahel de l'Institut d'études de sécurité. Interrogé par Aoussi Potin, il va se prononcer sur les conséquences de la fermeture officielle de la MINUSMA. Voici pour l'essentiel. Merci de choisir Radio de la Paix pour vous informer. Le fonctionnement sur fonds publics des partis, groupements politiques et des candidats à l'élection présidentielle était au centre d'une session du mécanisme conjoint CNDH, partis et groupements politiques, hier jeudi 6 juillet au siège de l'institution à Abidjan Cocody. Jean-Claude Mabéa a suivi cette rencontre d'échange et de partage d'expériences. Il nous propose son compte rendu.
Diversement apprécié en fonction des chapelles politiques, la problématique du financement de la vie politique sur fonds publics est une préoccupation, selon la présidente du CNDH, Namizata Sangaré.
Cette session vise à renforcer les connaissances des partis politiques pour mieux comprendre les enjeux juridiques du financement des partis et groupements politiques, analyser les modalités de mise en œuvre des tests en vigueur sur la question, comprendre la nécessité d'un contrôle de la gestion des fonds publics alloués.
Mais pourquoi financer les partis et groupements politiques? Le député Abdoulaye Ben Meïté en a donné les raisons.
La réponse est toute évidente, parce que le Parlement s'est dit que voici des gens qui ont abandonné la cause privée et qui sont mis à la disposition de la chose publique. Pendant que nous dormons, eux réfléchissent comment faire de sorte que tout le monde ait des conditions de vie meilleures. Ceux-là, il faut les financer. C'est ça les partis politiques.
Voici donc l'une des recommandations faites par Douka Marcelin, secrétaire général de l'UDCI, l'Union démocratique et citoyenne.
Nous avons été à l'hémicycle, nous avons bénéficié à un moment donné de financement de partis politiques et à la rencontre donc du CPD à Bassam, effectivement l'UDCI était où il avait été sollicité un financement exceptionnel pour les partis politiques qui n'étaient pas représentés à l'Assemblée nationale. Et ça avait bien débuté quand ça s'est arrêté en 2016. C'est pour ça que nous avons fait le plaidoyer pour que ce financement exceptionnel soit donc reconduit.
Ces propositions et recommandations feront donc l'objet de plaidoyer, a précisé la présidente du CNDH.
Merci à vous Jean-Claude Mabéa pour ce compte rendu. Le pôle pénal, économique et financier, juridiction pénale de premier degré, spécialisé en matière de délinquance, délinquance économique et financière a ouvert ses portes au grand public ce jeudi 6 juillet 2023 à Cocody, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de rapprochement d'avec les justiciables. C'était en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, de la présidente de la Cour de cassation et des partenaires techniques et financiers du système judiciaire ivoirien. On fait le point avec Paul-Bénédicte Boulou.
Sur l'objet de cette journée porte ouverte à Bané et Saublanche, présidente de cette institution.
Le pôle pénal économique et financier œuvre à l'assainissement de l'environnement économique et financier et conséquemment à l'établissement d'une bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Quant à ses perspectives, continuera de s'adapter aux évolutions de la criminalité qui, dans la mise en œuvre des actions du ministère de la Justice, se doit aussi d'œuvrer à une grande accessibilité de ses services. L'amélioration de l'accès au pôle pénal économique et financiers commence donc par la connaissance de cette juridiction.
Des ordinateurs portables, des serveurs et logiciels ont été remis à l'institution pour protéger et renforcer leurs données, la coopération internationale allemande GIZ.
Je tiens à vous remercier pour la qualité du dialogue et de la coopération entre le pôle pénal économique et financier et la GIZ. Ce don de matériel informatique de dernière génération va permettre de doter les membres du pôle d'outils modernes pour effectuer leurs tâches du quotidien.
Un autre partenaire, l'ONUDC, qui se prononce sur la qualité du travail effectué par l'institution Tidiane Mbaye.
À travers différentes décisions rendues et la conduite de procédures pendantes devant lui, apparaît comme l'un des fleurons de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Et nous sommes fiers de dire que nous avons participé à vos côtés et nous lui assurons qu'il trouvera auprès de l'ONUDC l'assistance dont il aura besoin dans le cadre prédéfini par le gouvernement.
D'octobre 2020 à ce jour, ce sont 883 dossiers qui ont été traités, dont 18 juin pour 356 dossiers clôturés ou jugés et 309 restant à instruire.
Parlons toujours de cette activité du pôle pénal économique et financier. Lors de son intervention, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a souligné que cette juridiction est un indicateur de bonne gouvernance qui rassure les investisseurs. Jean Sanson Kambilé.
Lutter contre la corruption en particulier et les infractions économiques en général participe à la protection des populations contre les nouvelles menaces facilitées par les technologies de l'information et de la communication et un monde connecté. Cela participe également à la stabilité de l'économie nationale. Du reste, les progrès accomplis par le pôle ont été salués au cours de l'évaluation mutuelle qui s'est achevée en mai 2023. Cette juridiction constitue véritablement un indicateur de bonne gouvernance qui rassure les investisseurs. Qu'il me soit permis de féliciter les équipes du pôle pénal pour les résultats obtenus et saluer leur abnégation au travail, leur probité et leur expertise avérée. Je voudrais féliciter les équipes de la gendarmerie nationale, de la police nationale et de l'unité de lutte contre le grand banditisme pour leur contribution essentielle dans la lutte contre la drogue et la délinquance financière. Les acquis du pôle pénal économique et financier sont encourageants, mais le pôle n'en demeure pas moins une structure jeune qui mérite au regard de l'importance de sa mission d'être accompagnée par des appuis suffisant tant au niveau financier des infrastructures que des équipements. C'est pourquoi je voudrais vous rassurer de la détermination du gouvernement à œuvrer au mieux en vue de vous offrir des meilleures conditions de travail. Cette activité constitue une expérience enrichissante pour tous les participants.
À l'instant, Jean Sanson Kambilé, ministre ivoirien de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Vie des partis politiques, après la dissolution de son parti politique, l'UPCI, au profit du RHDP, l'ancien président par intérim de l'Union pour la Côte d'Ivoire est devenu, désormais devenu cadre du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, a appelé ce mercredi 5 juillet les anciens militants et sympathisants de l'UPCI à prendre leur place et tout leur engagement à adhérer au RHDP ainsi qu'aux idéaux de ce parti. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a animée à Abidjan Cocody. Sidi Bé Yacouba est au micro de Jean-Claude Mabéa.
Je voudrais encourager les jeunes à pouvoir donc arborer les idéaux de paix, surtout de discipline, parce qu'une nation, un pays ne peut se construire dans l'indiscipline et dans le désordre. Aucune nation, aucun parti politique ne peut prospérer dans l'indiscipline et dans le désordre. Donc je lance un appel à l'ensemble des jeunes, comme l'indique notre devise nationale, de fait de la discipline, une valeur, n'est-ce pas, transversale, qui doit s'appliquer partout où il se trouve. Et donc, je voudrais dire à mes amis, à nos ex-militants UPCI, que de ne pas se considérer abandonnés. Beaucoup nous ont déjà rejoints et ils sont dans les différentes structures du RHDP. Et ceux qui sont encore hésitants, je les encourage donc à nous prendre en marche. Les élections locales qui viennent, n'est-ce pas, sont le baromètre des élections de 2025. Et donc, ils viennent pour qu'on soit ensemble. Et le 2 septembre, et pour 2025, et pour toujours. Nous pensons que le président de la République a beaucoup fait. Et donc, il va falloir travailler de sorte à pouvoir donc pérenniser toutes ces actions de paix, de stabilité. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est un havre de paix. S'inscrit donc au rang des nations émergentes.
Lutte contre l'insécurité routière, le ministère des Transports, appuyé par la police et la gendarmerie nationale, accentue la sensibilisation, appelant les conducteurs de véhicules à la précaution face à la pluie et au respect du code de la route, ainsi que les populations à la prudence en traversant la chaussée. À cet effet, des actions terrain dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière du 3 au 10 juillet ont été menées ce jeudi 6 juillet à Abidjan. Et c'est Francis Cassi qui a suivi celle à l'ancien corridor de Jesco à Yopougon. Il fait le point.
Ces actions terrain contre l'insécurité routière sont menées par l'Office de la sécurité routière, nous a dit sur place à l'ancien corridor de Jesco à Yopougon Raphaël Iriebi, chargé de campagne de sensibilisation à la sécurité routière à Lozère.
Les forces de l'ordre, ils interceptent les véhicules. Tout type de véhicules, transport en commun, véhicules particuliers. Et en ce moment, le personnel civil que nous sommes, nous portons le message de la sécurité routière. Et il y a trois thématiques. Premièrement, le comportement que tout conducteur doit avoir en période de pluie. Le second élément, le respect de la réglementation. C'est des êtres humains qui transportent, donc pas d'accident. Troisième élément, les piétons. Comment se prendre en charge lors de la traversée de la route?
Pendant ce travail de sensibilisation sur les routes, les policiers ou gendarmes peuvent aussi épingler des véhicules. La preuve.
Je vais faire la contravention des feux électromécaniques. Il n'a pas la carte grise qui représente la carte d'entrée d'un véhicule. Donc devant vous, je vais faire sa contravention électroniquement.
Et le chauffeur du car épinglé de s'expliquer.
Bon, elle m'a arrêté. J'ai garé mon car de transport, il est en jour. Ça finit jusqu'en 2024. Mais j'ai un problème au niveau de ça. Ils ont bloqué ça à Gagnoa. Pour que je conduise avec le copie. Si j'arrive à Gagnoa, il régule le problème et puis il récupère mon car de transport. Bon, elle m'a bloqué. Il ne veut pas que j'aille à Gagnoa. Alors qu'elle n'est pas assez dans le camion. Donc je ne sais pas comment je dois faire.
Sur le terrain, le directeur général de Lozère, Pafa Kone, a indiqué que cette semaine nationale de la sécurité routière du 3 au 10 juillet est exécutée sur tout le territoire par les directions régionales des transports.
Autre chose, dans ce 12 heures, la journée de la femme administrateur JIFEAD 2023 ont démarré hier jeudi à Abidjan. Le réseau ivoirien des femmes administrateurs IFEMAD, à l'initiative de cet événement, a voulu mettre en lumière la présence des femmes au poste de responsabilité et de direction au sein de l'administration publique ivoirienne. Les femmes administrateurs, conscientes de l'importance de leur rôle et des défis à relever en leur qualité de décideurs et de managers des services de l'administration publique, se sont données un cadre d'échange et de mutualisation de leurs efforts. Mata Touré.
Solidarité, efficacité, excellence.
Après plus d'une décennie d'activité au service du développement humain, le réseau ivoirien des femmes administrateurs vient d'organiser sa première édition de leur journée sur le thème « Leadership de la femme administrateur au service d'une administration publique moderne et performante » dénommée JFEAD 2023. Kaba Nasseré est directrice de cabinet du ministre de la fonction publique.
La conférence a montré qu'elle tient beaucoup au rôle que peuvent jouer ces femmes à nous donner une administration vraiment performante. Cette première édition de la journée de la femme administrateur vient vraiment à point nommé.
Célestine Assi, la présidente du RIFEMAD, tire un bilan de ces journées.
Je crois que cette activité a été une réussite. Nous avons passé plus d'une décennie à nous former. Aujourd'hui, nous sommes prêtes. Nous sommes prêtes à jouer notre partition aux côtés des hommes pour une administration ivoirienne de qualité, moderne, performante, compétitive.
Les JIFA 2023 vont se dérouler sur deux jours, structurés autour de deux temps forts. Une première journée consacrée aux réflexions autour du thème central, des panels, des partages et des activités ludiques vont meubler cette journée toute particulière.
Il était une fois, Francis Romain Van Gavaudier, eh bien, il était un homme de droit. Et comme il le disait, un homme de droit doit être droit. C'est ce qu'a confié ce jeudi 6 juillet l'actuel président du Parti ivoirien des travailleurs, le parti créé par Francis Vaudier, ancien président du Conseil constitutionnel décédé ce lundi. Docteur Aizi Aka Daniel, actuel président de la dite formation politique, a eu la charge de succéder à Francis Vaudier lors du 4e congrès ordinaire du PIT. Nous écoutons son témoignage.
L'image que nous gardons tous de ce grand homme, c'est la droiture. Il était, comme il le disait, un homme de droit, et un homme de droit doit être droit. Il a des principes qu'il faut qu'il puisse les préserver et qu'il ne souffre pas de voltiges de gauche à droite, qu'il reste dans ses principes. Et il y a des valeurs qu'il nous a léguées, la Côte d'Ivoire, que nous essayons de continuer de promouvoir. C'était à la fois l'homme doté d'une grande intelligence et d'une grande mémoire également, et qui savait tous regrouper autour de lui toute cette genèse que nous avons à un certain moment constituée. Et c'était un intellectuel de très haut niveau et c'était la fierté du parti d'avoir un tel leader. C'était assez franc, puisqu'il n'aimait pas la médiocrité, et donc il fallait être d'un certain niveau. On a même cru que le PIT serait donc le parti des intellectuels, dû au fait qu'il était l'un des plus grands intellectuels de ce pays. La Côte d'Ivoire a perdu un de ses éminents juristes, qui faisait la fierté de tout le monde et qui faisait la fierté des militants du Parti ivoirien des travailleurs. Malheureusement, il nous a quittés, mais nous restons dignes et nous gardons cette volonté d'aller vers la recherche d'une meilleure Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire des valeurs, que nous allons tenter de promouvoir de plus en plus. Nous allons essayer de continuer la mission et espérer arriver aux objectifs que nous nous sommes fixés, de voir une Côte d'Ivoire des valeurs.
Dans l'actualité sur le continent, un opposant sénégalais est en garde à vue depuis ce jeudi après avoir publiquement mis en doute le retrait du président Macky Sall, qui a annoncé lundi qu'il ne briguerait pas un troisième mandat en 2024, a indiqué son avocat à l'AFP. Biram Souley Diop, président du groupe parlementaire de la coalition de l'opposition Yewi Askanoui et cadre du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, le plus farouche adversaire du président, a été arrêté mercredi après avoir mis en garde contre un possible revirement du chef de l'État. Biram Souley Diop est poursuivi pour diffamation commise par un membre de l'Assemblée nationale contre un chef d'État étranger de nature à saper les relations diplomatiques de l'État et discrédit sur une institution de la République, a indiqué son avocat Maître Moussa Sarr. Et puis, des manifestations à l'appel de l'opposition au Kenya se déroulaient ce vendredi contre une série de taxes annoncées par le nouveau gouvernement en présence d'un important dispositif policier. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des manifestants dans la ville portuaire de Mombasa, selon des images diffusées par la télévision, tandis que les protestataires scandaient « La lutte n'est pas finie ». À Nairobi, la police patrouillait à pied, à cheval ou en voiture, tandis que plusieurs axes routiers étaient fermés. L'alliance Azimio du chef de l'opposition Raila Odinga a appelé à des manifestations antigouvernementales contre l'impact des nouvelles taxes sur les Kenyans qui souffrent déjà d'une grave crise du coût de la vie. On termine cette édition avec l'invité de la rédaction. À la demande des autorités de transition, le Conseil de sécurité de l'ONU a mis officiellement fin à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, le 30 juin dernier. Une fermeture qui laisse un vide à vite combler, prévient Kone Fahiraman Rodrigue, chef du projet Sahel de Institute for Security Studies, l'Institut d'études de sécurité ISS. Selon ce dernier, ce retrait pourrait offrir, entre autres risques, une plus grande surface d'action aux groupes terroristes et mettre à mal l'accord de paix de 2015. Kone Fahiraman Rodrigue est notre invité. Il est interrogé par Aoussi Potin qui l'a joint au Mali.
Fahiraman Rodrigue Kone, bonjour.
Bonjour, monsieur Aoussi.
Alors, à la demande des autorités de transition au Mali, le Conseil de sécurité de l'ONU a mis un terme officiellement à la MINUSMA le 30 juin dernier. Comment expliquer cette demande des autorités maliennes?
Je pense que les autorités maliennes l'ont justifié. Hein. Ils estiment clairement que la mission n'a pas atteint ses objectifs. Pour eux, la mise en place de cette mission visait à les aider à réduire l'insécurité et que malheureusement, le mandat onusien qui est attribué à la MINUSMA ne contient pas un mandat de lutte antiterroriste dans un contexte où la menace extrémiste violente reste pour eux la menace principale numéro un. Et deuxièmement, il reproche aussi également à la mission une certaine politisation de son mandat de protection des droits de l'homme par certaines puissances occidentales qui, selon eux, cherchent à accabler un peu le gouvernement de transition du fait de sa coopération militaire avec la Russie. Mais si on restitue tout cela dans les événements récents, on se rend compte que la demande du retrait de la MINUSMA rentre dans une logique débutée, on va dire, depuis l'année dernière, avec le retrait des troupes internationales, notamment de Barkhane et Takuba, mais aussi le retrait du Mali du G5 Sahel. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de démantèlement des mécanismes multilatéraux qui ont prévalu à la gestion de la crise malienne depuis 10 ans.
Sur le plan sécuritaire, quelles conséquences pour le Mali suite donc au retrait des casques bleus, en l'occurrence de la MINUSMA?
Il faut savoir que les autorités maliennes sont restées conscientes quand même quant à leur capacité à reprendre la situation en main. Elles ont mentionné le fait que militairement, l'armée malienne monte en puissance, elle a cette capacité de pouvoir faire face d'une certaine mesure à la menace, mais l'État malien ne rompait pas sa coopération sécuritaire avec les acteurs internationaux. Donc il y a des relations bilatérales au point de vue sécuritaire. Elle collabore avec certains voisins et aussi avec des acteurs aussi internationaux avec l'appui de la Russie. Donc elle reste consciente. Mais malgré cela, on pense que ce retrait aussi pourrait avoir un ensemble de conséquences si le vide n'est pas réellement occupé par l'État malien, si sa stratégie qu'elle définit n'arrive pas à réellement prendre en compte un ensemble de défis sécuritaires qui sont notamment en premier la question des groupes armés du Nord. Il y a un accord de paix qui a été tissé depuis 2013 pour mettre fin à cette crise, je dirais, d'insurrection dans le Nord Mali. Donc il y a un risque d'affrontement si cette question-là n'est pas réglée. Deuxième élément, une reprise du combat avec les groupes armés pourrait avoir une conséquence directe sur la lutte contre le terrorisme, d'autant plus que ça pourrait donner un appel d'air aux groupes djihadistes du fait que la MINUSMA ne soit pas présente. Ça leur permettrait de circuler sur des champs assez vastes, une liberté de circulation si le vide-là n'est pas comblé. Mais il y a des risques encore au point de vue humanitaire. Vous savez que la MINUSMA était une mission de stabilisation qui jouait sur des questions humanitaires, des actions de développement, et appuyer même la multitude des ONG qui prennent en compte les près de 8,8 millions de Maliens qui sont en situation de besoin humanitaire. Donc, en termes de soutien logistique, ce vide-là, comment sera-t-il comblé? Donc, cela laisse de très grandes questions et inquiète sur une plus grande dégradation de la situation.
Comment est-ce que le Mali pourrait donc en arriver à combler ce vide, puisque ce thème est revenu de façon récurrente dans votre réponse à l'instant?
Le Mali devrait continuer sa coopération avec les acteurs internationaux et les acteurs également régionaux comme l'Union africaine, la CEDEAO, parce que il est important qu'elle ait un appui en termes d'expertise, mais également un appui au point de vue financier. Donc ce vide-là pourrait être comblé en redéfinissant de façon certainement plus souveraine, mais beaucoup plus consensuelle avec les acteurs internationaux, des objectifs, des priorités, de sorte à limiter les effets de cette crise-là. Vous êtes sans ignorer que la crise djihadiste qui secoue le Mali, le Burkina et le Niger depuis quelques années s'est régionalisée depuis 2015 pratiquement. Tous les pays côtiers sont également touchés, même s'ils ne sont pas directement touchés par les incidents. Les réseaux d'approvisionnement des groupes vont jusqu'aux côtes. Donc, la menace se renforce davantage dans ce sens. Du coup, il y a aussi une responsabilité des acteurs continentaux dans l'accompagnement du Mali. Nous faisons référence à la CEDEAO et à l'Union africaine et il est grand temps qu'ils reviennent comme, je dirais, des acteurs qui tiennent le leadership dans l'assistance et l'accompagnement apporté au Mali.
Vraiment, Rodi Koné, nous vous disons merci.
Merci.
Voilà. À l'instant, notre invité de la rédaction était Conny Fayraman Rodrigue, chef du projet Sahel de l'Institut de sécurité. Il se prononçait sur les conséquences de la fermeture officielle de la MINUSMA au Mali le 30 juin dernier. On s'arrête ici pour ce 12 heures, les grandes lignes. Le financement des partis, groupements politiques et des candidats à l'élection présidentielle sur fonds publics a fait l'objet d'une session du mécanisme conjoint CNDH partis et groupements politiques hier jeudi. Jean-Claude Domabéa nous en a fait le point à l'entame de ce 12 heures. Et puis, lutte contre l'insécurité routière. Le ministère des Transports appelle les conducteurs de véhicules à la précaution face à la pluie et à respecter le code de la route. C'était dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière pour ce mois. Et il a été lancé hier au corridor de Jesco. Ayoub Gang. merci de nous avoir suivis. L'info sera de retour à 15h sur Radio de la Paix. À présent, la revue de presse Jean-Claude Comé.
Bonjour à tous. Action politique amenée après le rejet de la réclamation auprès de la CEI pour la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. La question de la dette en Côte d'Ivoire vue par le PPACI et la